Gérard Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Deluback Asset Management. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Alors, dans un contexte, on pourrait dire un début d'année relativement facile, entre guillemets, puisqu'il y a eu un retour d'intérêt sur les actions. Est-ce que ça a été un marché pour autant rassurant sur le fond? On a senti qu'il y avait cet appétit pour les actions, mais au détriment d'autres actifs essentiellement. Comment vous avez vécu cette période, vous?
Moi, je l'ai vécu un peu comme les 3 ou 4 dernières années, c'est-à-dire qu'en fait, derrière une apparence homogène, il se passe beaucoup de choses. Donc moi, j'ai trouvé mon compte en tout cas.
C'est-à-dire que on a les indices qui ont été au plus haut, même si ce n'est plus le cas en ce moment, mais qui ont été au plus haut. Et derrière, il y a eu des vraies progressions et peut-être d'autres choses moins évidentes ou plus difficiles.
Bon, il y a eu, je dirais, un petit peu avant, ce qui est la plus longue période à un moment où on se parle, il y a eu le avant 22 mai et le après 22 mai. Le avant 22 mai, on a un marché qui a l'air de vouloir ne capter que les bonnes nouvelles, quasiment. En tout cas, soit macro, soit microéconomique. Et après le 22 mai, depuis quelques jours, quelques semaines, ça se complique énormément, sous l'impact du discours de Greenspan.
Alors, quand on s'intéresse aux valeurs comme vous le faites et aux sociétés, est-ce qu'il y a un changement justement sur le fond ou est-ce qu'on trouve toujours des entreprises qui, malgré le contexte, ou peut-être grâce à ce contexte aussi, qui leur a permis de certaines de reconstituer des fonds propres, à d'autres de faire des augmentations de capital à bon compte, des entreprises qui finalement s'en sortent bien?
Oui, il y a des entreprises qui s'en sortent bien. Alors après, il peut y avoir des phases de marché où le marché n'accepte pas le discours de ces entreprises. Et donc là, il faut être assez fort, assez professionnel surtout pour en profiter. C'est-à-dire que s'il y a des périodes comme les dernières séances qu'on vient de vivre qui sont compliquées, on accumule sur des titres qui, eux, confirment leur perspective. Moi, sur le fond, ce que je vois quand même, même sur des valeurs de très grande qualité, c'est que l'Europe freine des deux pieds. Vraiment, il y a un freinage très fort. Sur les activités européennes, quand vous regardez par continent, même pour des sociétés leaders qui sont vraiment qui maîtrisent leur destin, on a sur la partie européenne des chiffres négatifs ou en très faible croissance. Bon, ce qui est un élément nouveau sur les valeurs de cette qualité. Néanmoins, là où ça me gêne pas du tout, au contraire, c'est que l'écart se creuse encore par rapport au troupeau, puisque le troupeau, lui, est en train de perdre pied complètement. Les valeurs domestiques européennes, les valeurs des secteurs en déflation, etc.
Alors ces valeurs-là, justement, est-ce qu'elles ont pu, parce qu'on a vu aussi que sur les marchés émergents, il y avait aussi un certain nombre d'inquiétudes, il y avait un peu moins de croissance en Chine, même s'il y en a toujours plus que chez nous, mais est-ce qu'elles ont pu tout de même bénéficier encore de cette partie-là, notamment, et de ces marchés émergents? Est-ce que ça a été suffisant ou est-ce que ça commence à être difficile?
Ouais. Bon, là, moi, je pense qu'il faut vraiment regarder, ce qui me paraît très important, c'est toujours pareil, c'est les histoires d'ordre de grandeur. On est dans un milieu où on réagit à une information sans la remettre en perspective. Alors, il y a un problème en Chine. Bon, très bien. OK. On va faire quoi? 7, 7,5 de croissance. La classe moyenne en 10 ans va doubler. L'Europe. Des gens qui travaillent, malheureusement il y en a plein qui sont au chômage, mais enfin, disons que l'Europe des gens qui travaillent, c'est à peu près une Europe qui est en train de se créer en Chine en termes de taille d'actifs à revenus comparables. Et on me dit que la Chine a des problèmes. Bon, très bien. Et après, s'il n'y a pas de nuance, on fait des bêtises. Il faut absolument remettre les choses dans la perspective. Donc, quand il y a un problème, on l'analyse. C'est dans tous les domaines la même chose. Vous avez des sociétés qui font des acquisitions. Moi, on m'appelle tous les jours pour me dire, tu as vu, il y a SGS qui fait des acquisitions, l'acquisition de 20 personnes sur un groupe qui emploie 60 000 personnes. Est-ce qu'on doit passer 20 minutes à analyser l'acquisition? Non. Donc, il ne faut pas perdre de temps dans des choses qui n'en valent pas la peine. Pour moi, l'Asie et les pays émergents, ce sont des zones qui changent de dimension, et donc ces groupes-là vont en profiter. Et ce n'est pas parce qu'il y a un épiphénomène que l'histoire s'arrête.
Alors, il faut rappeler hein, sur ces marchés que ce qui n'est pas évident, c'est cette partie effectivement économie, c'est-à-dire que l'économie, on a vu qu'elle est en croissance, certes, mais quand on regarde les marchés financiers, pour l'investisseur, ce n'est pas toujours évident. Il y a eu des périodes où il a pu effectivement aussi profiter des marchés financiers, puis il y a des périodes où finalement la bourse ne faisait pas grand-chose, alors que l'économie, elle, se portait pas trop mal.
Alors, il y a beaucoup de sociétés dans les pays émergents qui sont liées à la production. Il y a 80% de la cote asiatique qui est liée à la production. Il y a beaucoup plus de valeurs liées à la consommation en Europe. Ça, c'est très important aussi. Donc, si les investissements ralentissent, ces sociétés cotées en Asie en pâtissent. Donc, il peut y avoir une déconnexion en fonction de l'analyse du PIB qu'on fait. On peut expliquer cette déconnexion.
Alors, on sent quand même, hein, sur le fond de ces marchés, donc cette partie action qui a été effectivement pour les investisseurs un moyen d'investir au détriment notamment des marchés obligataires, mais en même temps, on a de plus en plus de craintes sur ces marchés obligataires. On se dit avec l'expérience, avec ce qui s'est passé dans les précédents cracks obligataires, même si c'est pas un crack peut-être qui arrivera, que ça va être compliqué pour ceux qui sont aussi que sur la partie action. Comment on gère ce risque latent, on va dire?
Bon, je crois que là, on rentre dans une phase de marché vraiment compliquée maintenant. Depuis le 22 mai, on sait comment ça va fonctionner. On l'a déjà vu. Je redonne la mécanique qui est très simple. Si les chiffres économiques américains sont trop bons, avec ce qu'il y a comme papier obligataire américain dans la nature, c'est pris comme un risque. Et donc, risque d'inflation, risque de ce que j'appelle les plaques tectoniques qui commencent à bouger, c'est-à-dire les transferts d'actifs. Et quand on commence à avoir des séances comme ça et ce genre de crainte, ça ne se résout pas en 15 jours. C'est ce qu'on pourrait appeler des effets paquebot, c'est très lent. Alors ça, quand ça commence comme ça, c'est parti pour des mois. Donc je pense qu'on est parti pour des mois, voire plus, de bumpy road, comme disent les Anglais. On va avoir un chemin un peu chaotique. Mais alors justement, moi ça m'arrange. Plus les marchés sont laborieux, compliqués, plus on aura besoin de vraies histoires de croissance autonome. Donc moi j'adore ces genres de phases de marché, ça m'arrange. Si ça dure 3 ans, c'est parfait pour moi.
C'est-à-dire, vous voulez dire que par exemple, il peut y avoir sans distinction de valeurs, c'est-à-dire des belles valeurs, des valeurs qui seront capables sur le plan de l'activité, de la rentabilité, de tenir la distance, qui peut-être vont être massacrées dans ces phases-là, ou peut-être vont être mises de côté.
Capées en tout cas.
Oui, capées.
Capées, c'est-à-dire qu'elles seront, ça va leur couper un peu les pattes, elles commenceront une hausse et puis il y aura des éléments macroéconomiques qui vont un peu les caper. Néanmoins, quand il y a de l'information qui ressort dessus, c'est reparti. Et donc, il faut en profiter pour accumuler. Il ne faut pas se tromper de dossier. Il ne faut pas se tromper non plus de pondération. Le vrai métier aussi, c'est la pondération, la gestion des pondérations. Quand on veut se battre en gestion contre les meilleurs, il faut aussi gérer les pondérations. Les 5 premières lignes, ça doit être justifié. Nous, en ce moment, c'est EADS. Il y a une raison très précise qui fait que EADS est la première position. Bon, Dassault, qui est un dossier que j'aime beaucoup, j'ai quasiment tout vendu à 90. C'est maintenant ma dernière ligne pour des raisons de cherté. Elle est encore dans le fond, mais elle est un peu chère. Mais chaque pondération doit être expliquée et justifiée. Voilà. Donc, quand on maîtrise ça, au bout de X années d'expérience, on commence à pouvoir se battre contre des costauds de la profession.
Est-ce que sur la partie, en dehors de ces grandes entreprises, sur la partie mid-cap, on a vu des années où ça n'a pas été de bonnes années pour les valeurs moyennes, ce qui était assez rare, hein. Traditionnellement, on dit toujours elles font mieux, elles surperforment la cote. Est-ce que là, il y a des opportunités? Alors, sur mid-cap, ça va de très petites sociétés à des sociétés qui sont déjà des PME internationales. Est-ce qu'il y a des opportunités peut-être dans la période, justement?
Alors, il me semble que c'est plus lié à la position qu'occupe l'entreprise par rapport à son propre secteur que la taille dans l'absolu. Et dans ce cadre-là, si la société fait partie des très bons, des leaders de son secteur, c'est pas une question de taille. Elle peut faire 500 millions de capi si elle est dominante, entre guillemets, en tout cas, si elle s'en tire bien dans son secteur, c'est tout à fait jouable et elle sera performante en bourse aussi. Maintenant, il y a un autre aspect dans votre question, à mon avis. C'est dans l'inconscient, dans la perception qu'on a des mid-cap et des big-cap. Quand on sait par exemple qu'un Dassault Systèmes, ça capitalise 12 milliards, qu'un Gemalto 6, Luxottica, qui n'est pas forcément très connu en France, c'est 20 milliards, SAP 60, etc. Où sont les mid, où sont les big? PSA 2,5. Hein. Donc peut-être aussi qu'il faut que, bon, quand on baigne là-dedans tous les jours, ça paraît normal, mais il faut aussi peut-être revoir son environnement au niveau intellectuel, dans le sens où les mid-cap d'hier sont parfois les big-cap d'aujourd'hui.
Bien, on suivra ça dans l'occasion de reparler de ces marchés. Merci d'avoir
Avec
fait le point
plaisir.
avec nous, Gérard Moulin. On rappelle que vous êtes donc gérant chez Delubac Asset Management.
Merci.